dancing queen, young and sweet, only 17.
Bienvenue dans ma bulle. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Eva Devers et vous êtes bien sur Graffiti Urban Radio. Désormais, nous allons nous retrouver tous les mois pour une émission consacrée à l'art. Musique, cinéma, danse, théâtre, créatures de la nuit, littérature, mode, histoire de l'art. Je vais vous faire découvrir ou redécouvrir des artistes connus ou moins connus pour ensemble explorer leur univers. Au travers de leurs œuvres et aussi de leurs témoignages, nous voilà partis pour un petit voyage d'une heure dans ma bulle. Ça y est, c'est la rentrée. Me voilà de retour avec vous pour une heure de belles découvertes et de partage. Eh bien, ce mois-ci, nous allons parler théâtre avec un génie de la scène. Et puis, je vous raconterai musique avec une icône disparue qui nous a malheureusement quittés avant l'été. Alors voilà, c'est parti pour ce petit voyage ensemble et à nouveau dans ma bulle. Comédien, metteur en scène et auteur de pièces à succès, il fait partie de mon collier de perles du théâtre français et est à mes yeux un génie de la scène. C'est avec une joie non dissimulée que je vais échanger ce soir et vous faire découvrir l'univers de mon ami Monsieur Halil Vardar. Bonsoir Halil.
Bonsoir à tous.
Alors, comment vas-tu ce soir?
Bah écoute, comme tous les dimanches soirs, le dimanche c'est un jour un petit peu mélancolique pour moi. Alors, c'est un jour un peu particulier, je sais pas, parce que peut-être parce que c'est le seul jour de la semaine où je ne joue pas le soir. Ça doit être ça. Mm-hmm.
Oui, donc il y a ce petit manque peut-être.
Peut-être, et peut-être quelque chose, je sais pas. Et puis le dimanche, c'est quand même un jour particulier. Et à Paris, on a la chance d'avoir en plus du dimanche très souvent la pluie, qui nous fait quand même deux éléments un peu dépressifs à la suite, voilà. Mais bon, c'était pour le petit clin d'œil.
Alors, on va démarrer comme je fais avec tous mes invités. Je vais te poser une question, somme toute, facile pour moi. Maintenant, on va voir si pour toi, elle est assez simple. Je vais simplement te demander de nous raconter qui est Halil Vardar et d'où vient-il.
Oula,
Eh oui.
C'est un peu compliqué. Disons que je pense qu'Halil Vardar, c'est un garçon, c'est difficile de se raconter, je pense que c'est un garçon qui est né en Belgique en 1970 dans une famille d'immigrés albanais et qui était destiné à tout sauf au milieu du spectacle vivant, puisque à l'époque la plus grande ambition pour les immigrés comme nous c'était les chantiers ou comme mes frères et moi on avait plutôt une bonne gueule et qu'on passait bien, on pouvait espérer être serveur dans un bar ou dans un restaurant. Mais finir à Paris, sous les feux de la rampe, au théâtre et tout ça, c'était totalement inespéré. Je pense que ça a été un parcours d'un gosse. Moi, je pense que j'y ai cru toute ma vie, c'est-à-dire que j'étais la preuve que... Parce que franchement, j'étais pas du tout le plus talentueux de mes copains. Quand j'étais gamin, j'étais pas moi le meilleur, loin de là. Mais je pense que Halil Vardar, c'est la preuve que la détermination et l'acharnement, au bout d'un moment, peuvent payer. Voilà. Mais il y a tellement d'autres choses à dire. C'est un peu réducteur, mais c'est une phrase qui est pas mal pour un peu résumer.
Oui, c'est que c'est vraiment quand on veut, on peut, et quand on rêve, on y arrive. Donc, c'est ce petit côté. Donc, en fait, tu étais rêveur, obstiné, et c'est comme ça que tu as réussi.
Oui, je pense que... De toute façon, je ne sais plus qui disait qu'un artiste, c'est un enfant qui a échappé à l'âge adulte. Et en fait, je pense que rêveur, il faut l'être toujours, il faut se battre. Mais après, on est quand même... Il y a le pragmatisme de la vie de tous les jours, quoi. Tout, tout coûte de plus en plus cher. À un moment, tu fondes une famille. Moi, je me suis retrouvé avec du boss. Et tous ces gens-là comptent sur toi. Donc, c'est vrai que tu es rêveur. Mais malheureusement, tu deviens un rêveur très pragmatique parce que tu te retrouves à un moment... C'est la société qui veut ça. C'est-à-dire qu'à un moment...
Oui, t'es rattrapé.
C'est-à-dire, toi, tu veux continuer à rêver. T'as envie d'être le gosse qui s'amuse encore dans le jardin. Mais à un moment, on te rattrape avec un loyer, une scolarité à payer, des trucs. Et finalement, même les rêveurs comme nous, on est obligé à un moment de se dire, ben voilà, même si on rêve, il faut se battre, parce qu'il y a la société, parce qu'il faut vivre.
Et parce qu'on n'a pas le choix, tout à fait.
On n'a pas le choix. Franchement, en plus, moi, j'ai encore moins de choix que les autres, parce que moi, je n'avais pas de plan B. C'est-à-dire, tu sais, t'as des gens qui te disent, oui, mes parents étaient très pauvres, et puis en fait, tu te rends compte que le père, il était enseignant, que la mère, elle travaillait dans une bercerie. Moi, quand je te dis qu'on était pauvres, c'est-à-dire que dans le quartier, moi j'ai grandi à Bruxelles, dans le quartier pauvre, il y avait la famille pauvre, et nous on était la famille pauvre. C'est-à-dire on n'était pas pauvre, on était la famille pauvre du quartier pauvre. Et donc, j'avais pas de plan B, c'est-à-dire que ou alors je m'en sortais grâce à ça, ou alors j'étais destiné à une vie beaucoup moins joyeuse, quoi.
Et alors qu'est-ce qui fait, justement, à travers tout ça, que d'un seul coup, tu décides de quitter Bruxelles pour regagner la France?
Bah écoute, d'abord, pour les gens qui connaissent la Belgique, c'est un pays qui a été inventé en 1831 pour que les gens arrêtent de se taper dessus entre les Hollandais et les Allemands. Donc c'est un pays qui n'a
pas... Oui, déjà c'est récent.
Voilà, c'est pas un pays qui a vraiment de culture parce qu'il est assez neuf, il date de 1831 et on est baigné par une culture francophone mais aussi majoritairement néerlandophone, flamande. Et un peu germanophone aussi. Donc, si tu veux, quand tu es en Belgique, c'est un peu triste parce que tu fais des spectacles en français, mais sur les 10 millions de Belges, il n'y en a que 4 millions qui parlent ta langue. Donc, je comprenais pas trop l'intérêt de rester en Belgique à essayer de convaincre 4 millions de personnes, alors qu'à côté, à l'époque, il y en avait 65 millions.
Exactement. Voilà.
Et comme j'ai été invité à faire le Festival d'Avignon, où j'ai rencontré... Franchement, j'ai découvert des choses magnifiques en France, j'ai découvert cette liberté, en tous les cas à l'époque où moi je suis arrivé, c'est-à-dire début des années 90, où il y avait une espèce de liberté comme ça, de légèreté dans l'air, d'insouciance, et où la culture et le spectacle vivant étaient à l'honneur de partout. Et vraiment, en tant que petit Belge, je voyais ça et je me dis, mais j'aimerais tellement être de la partie, quoi. Et c'est pour ça que j'ai pris mes clics et mes claques, comme on dit à Bruxelles. Et je me suis barré en France sans réfléchir 30 secondes.
Oui, ça a vraiment été go, quoi. On y va et on essaye.
Ah oui, non, mais de toute façon, je savais que mon histoire professionnelle se ferait en France. Et du coup, j'aime profondément la France. J'aime l'histoire de France. En Belgique, on dit qu'on est belge, mais bon, les Belges, ils regardent la télé française. On regarde le journal français.
Oui, c'est vrai.
Franchement, on n'a pas grand-chose de différent d'un Lillois ou d'un gars de Valenciennes. Hein.
Et donc là, tu arrives en France, donc tu dis Festival d'Avignon et tu fais une fabuleuse rencontre.
Oui, alors qu'est-ce que tu veux dire par fabuleuse rencontre? Parce que j'en ai rencontré beaucoup, des fabuleuses rencontres.
Oui, oui, oui. Mais moi je pense par exemple à Eric Carrière.
Ah oui, oh là là, Eric, je l'ai rencontré à Toulouse, Eric, pour être tout à fait précis.
À Toulouse.
En fait, si tu veux, l'avantage, quand tu fais le Festival d'Avignon, quand tu fais le Festival d'Avignon, c'est un peu comme quand tu vends des voitures et que tu fais le salon de l'auto. C'est-à-dire que
tu as
tout le milieu qui vient te voir, et évidemment le bon comme le mauvais, c'est-à-dire que tu as tout le monde qui vient. C'est pour ça que je dis toujours à des gamins qui m'écrivent, parce qu'il y a énormément de gens maintenant qui m'écrivent en disant « j'ai une pièce, je veux faire », je leur dis « allez à Avignon ». C'est à Avignon que tout naît. Et moi, quand j'ai été à Avignon, j'ai eu la chance d'être programmé après avec mes spectacles de l'époque un peu partout. Et un jour, j'ai rencontré Eric Carrière. Le contact était un peu difficile au début parce qu'on était un peu entre mâle alpha, quoi. On était... on se regardait un petit peu, on se toisait et tout. Et pour les gens qui connaissent le duo bien, il a l'air moins accessible que le petit, donc Francis. Mais finalement, je pense que c'est le plus sensible des deux, c'est Eric. Et en fait, après, on est devenus des amis. Et on est vraiment, je pense que ça fait partie de mes rares amis dans le monde. C'est vraiment un ami, quelqu'un pour qui j'ai une affection particulière et presque familiale. Et c'est vrai que il est très bienveillant et il a su m'aider dans mes choix de spectacle, dans les thèmes, dans l'écriture sur 10 ans de mariage, par exemple. C'est un garçon qui est très présent dans ma vie. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on ne se téléphone pas tous les jours. Hein. Eric et moi, on peut passer 5 mois sans se parler. Et quand on s'appelle, c'est comme si on avait raccroché la veille.
Oui, ben oui, c'est la vraie amitié, ça.
Oui, c'est la vraie amitié. Et franchement, Eric et Francis, moi, j'ai habité à Paris, j'ai connu tous les artistes, tous. De Valérie Lemercier en passant par Latsou, par Debbouze, par tout. Je les ai tous rencontrés, tous. et j'ai tous une anecdote, une petite vie avec chacun d'entre eux. Et en fait, Francis et Eric, ils ont cet avantage d'une totale profonde honnêteté d'âme et sont des gens,
oui.
des gens clean, quoi, voilà. En tous les cas, moi, je les aime beaucoup, oui. Mais tu l'as compris.
Oui, oui, et puis on le ressent de toute manière dans leur spectacle et dans leur partage quand on va les voir sur scène.
Ah oui, non, franchement, les gens... Et alors, c'est quand même les humoristes qui font le plus de monde en France, hein. C'est-à-dire, c'est des salles de 5000 places, de partout et tout. Moi, franchement, moi, ils me font beaucoup rire et je les aime beaucoup.
Et, tu vois ce que je viens de dire, ça se ressent aussi dans ton travail, quand on va voir tes spectacles et on va te voir sur scène, il y a aussi ce partage et cette chose que tu amènes dans ton jeu, dans tout ce que tu fais, et peut-être que finalement c'est eux qui t'ont apporté ça et qu'aujourd'hui tu le transmets aussi.
Je sais pas ça, Eva, tu sais, j'ai aucune idée de ça. Tout ce que je peux te dire, c'est que les chevaliers comme moi, on est plutôt des garçons généreux et contrairement à beaucoup de gens, on aime... Vraiment. C'est-à-dire, je vais te dire une phrase, on ne fait pas ce public parce qu'on s'aime, on fait pas ce métier parce qu'on s'aime, on fait ce métier parce qu'on aime le public.
Exactement.
Tu vois, c'est pas la même démarche. Des mecs comme Eric et Francis, moi je les ai vus un soir sortir de scène alors que c'était un triomphe, et ils avaient malheureusement raté un sketch, et ils étaient presque en larmes parce qu'ils avaient l'impression d'avoir manqué à leur engagement vis-à-vis du public. Et le nombre de fois que j'ai vu sortir des mecs de scène qui n'en avaient rien à foutre, qui même à la limite étaient dédaigneux de leur public, on a l'amour. Et quand tu aimes vraiment quelqu'un, je pense que tu le respectes. Tu sais, Sacha Guitry, il disait, jouer au théâtre, c'est faire l'amour à plusieurs personnes en même temps, mais avec du tact. Et je pense,
exactement.
Et je pense que quand tu aimes la personne avec qui tu fais l'amour, tu te mets encore plus de tact qu'avec les autres.
Et ça se ressent. Ça, c'est, quand on est spectateur, on le ressent énormément.
Ben, merci.
Alors justement... Donc, tu Avignon, cette rencontre, après tu arrives sur Paris, tu commences les écritures et il y a, on va dire, une pièce qui vraiment, une de tes premières pièces qui là lance la machine.
Oui, le clan des divorcés. Le clan des divorcés est une espèce de provocation incroyable, c'est-à-dire qu'on fait jouer sur scène un homme par une femme. C'est-à-dire que mon personnage n'est pas un travesti qui à un moment va devenir un homme. C'est une femme qui est interprétée par un homme. Et, ce pari, il est complètement incroyable. Et j'arrive avec ça. J'avais jamais vécu ça de ma vie. Hein. J'ai toujours joué. Mais j'arrive. Et là, les gens ils te disent, oui, c'est complet. Je dis, ah oui, je sais que c'est complet. Puis, non, c'est complet pendant un mois, M. Vardar. C'est-à-dire, on a atteint des chiffres, encore aujourd'hui, des chiffres qui n'existaient pas. Et je pense que ce personnage que j'ai créé, et c'est marrant parce que tu dois connaître Ziz.
Bien sûr.
Figure-toi que Ziz, que j'embrasse d'ailleurs en passant, Louis, un jour, il m'a invité à prendre un verre et il m'a dit que Ziz est né du clan des divorcés. Il m'a dit, je suis venu te voir et ton personnage de Brigitte m'a donné envie de créer Ziz et qu'il fait d'ailleurs magistralement bien. Et le nombre de pièces après où il y avait un travesti ou une femme jouée par un homme, je ne les compte plus. Et je pense que le clan des divorcés a remis à la mode un exercice au théâtre qui avait disparu, c'était le travestissement. Mmh. Parce que je pense que depuis la cage aux folles, on avait coltiné le travestissement à chez Michou, des trucs comme ça, tu vois. On se disait, un truc. Mais... Qu'un mec comme moi, hétérosexuel, ne cherchant pas de travestissement, j'étais juste une femme. Avec mon 1m80 et mes 95 kilos à l'époque, j'avais rien de féminin. Tu vois.
Mais c'est ça qui était extraordinaire.
Oui, je pense que ça a amené un truc nouveau. Parce que c'est une pièce. Si on n'a pas vu le cœur des divorcés aujourd'hui en France, il y en a plein qui l'ont vu. C'est non seulement drôle, mais je pense que mon personnage était touchant parce que je jouais une femme. Et contrairement à... comment dire ça, parce qu'il faut trouver les mots justes, c'est, je ne me moquais pas des femmes, je jouais une femme qui était touchante, et la limite entre le drôle et le ridicule, elle est infime, c'est un numéro de funambule, et je pense, après c'est toujours bizarre et étonnant de se dire soi-même, parce que moi j'aime pas trop ça, mais je pense que j'avais, elle s'appelle Brigitte mon personnage, je pense que j'ai créé une formidable Brigitte qu'on avait envie d'avoir comme copine, tout le monde voulait avoir Brigitte.
Complètement.
Voilà.
Mais complètement, oui, tout à fait. C'est exactement ça, et comme tu l'as dit, il n'y avait pas de ridicule là-dedans, absolument
Non, et tu sais, comme souvent, quand c'est le cas, dans les premiers succès, c'est d'abord la communauté LGBT qui a créé. Très peu de gens le savent, mais c'est... alors, j'oublie, Pérou, Bruno Pérou, qui est à Tatouvu, à l'époque, qui était venu voir le spectacle, qui avait craqué sur le spectacle, et c'était un spectacle où, je veux dire, les 100 premières séances, majoritairement, le public était LGBT. Et après, comme souvent, hein, c'est souvent la communauté LGBT qui désigne les talents et les succès et la mode. Hein. Et du coup, ça m'a permis de me rendre compte que mon jeu était juste parce que je n'étais offensant avec personne. Parce que tu vois, moi, il y a rien qui me vexe plus que les gens qui vont, pardon de te dire ça, tu vois, mais le mec qui va jouer la folle et qui qui va humilier les homosexuels. Ou le mec qui va jouer le juif tout exagéré, qui va humilier les juifs, si tu veux. Moi, je pense que quand on est sur scène devant des gens, on a une responsabilité sociale. Et moi, je voulais faire un personnage qui ne heurte et qui ne fasse du mal à personne et qui soit méchant avec personne. Et à force de travail avec Gilles Rama, mon metteur en scène, à l'époque, je pense qu'on est arrivé à ce que tout le monde puisse regarder cette pièce en se disant « c'est juste drôle, quoi ».
Mais c'est tout à fait ça. C'est exactement ce qui s'est passé avec cette pièce et avec ce personnage de Brigitte. C'est vraiment ça.
Mais ben écoute, merci parce que c'était vraiment ma volonté première.
Ah, tout à fait. Et puis la balance aussi avec les deux autres personnages a fait le tout, en fait.
Ah oui, parce que faut le dire la vérité, hein, les auditeurs, ils ne peuvent pas m'imaginer. S'ils connaissent ma tronche et qu'ils m'imaginent en gonzesse, ça ne donne rien. Je peux te dire que je n'aurais même pas fait bander un routier roux. Je ne donnais absolument rien en Anna, j'avais à côté de moi une bombe atomique qui jouait le rôle de l'anglaise et la bourgeoise qui jouait le rôle de la coincée, qui était une espèce d'église au milieu du village, comme ça. Et en fait, c'était le mélange, et c'est fou, hein, parce que tu sais, on faisait des petites études à un moment, comme ça, parce qu'on jouait tellement, c'est une pièce qui s'est jouée des milliers de fois. Et en fait, on demande, trois, vous aimeriez finir la soirée. Et bien, je te jure que c'est moi qui l'emportais. C'est-à-dire que j'étais pas belle, mais la personne que les gens avaient envie de voir de continuer à voir, c'était moi parce que elle était pleine d'humanité. Parce que finalement, notre physique, on le choisit pas.
Non.
T'es belle ou t'es pas belle, t'es beau ou t'es pas beau, tu vois. Par contre, d'être quelqu'un de gentil, quelqu'un de bon, ou d'un abruti, ou ça, tu le choisis. Et en fait, du coup, Brigitte, c'était une espèce de boule d'humanité, comme ça, qui ne connaissait pas le négatif, et je pense que ça a été une des clés du succès.
Ah, mais je pense que oui, c'est ça qui a fait le tout, tout à fait. Et donc, cette pièce, comme tu l'as dit, donc jouée des milliers de fois, captation, diffusion, je crois plus de 70 fois en 10 ans, ce qui est quand même colossal.
Et puis, c'est traduit dans 16 pays dans le monde.
Aussi, voilà.
Ça a été, il y a un avant et un après, hein. C'est-à-dire que tu sais, aujourd'hui, il m'arrive parfois de rentrer dans des supermarchés, donc j'ai entre-temps repris mon look de mec, j'ai une barbe, j'ai perdu 15 kilos, et t'as des mecs qui disent à leur femme, regarde, c'est Brigitte.
C'est extraordinaire, ça.
Je porterai toute ma vie. Oui, c'est magique, c'est vrai que c'est un rôle.
Oui, c'est un rôle qui, forcément, qui te marquera pour tout le reste, mais qui t'a aussi certainement déclenché des tas de choses derrière.
Ah oui, non, et puis surtout, franchement, il y a pire comme condamnation, hein. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Oh oui. Franchement, tu sais, quand t'as la chance, tu connais le métier de comédien, c'est tellement dur.
Oui.
Alors, quand t'as, je veux dire, les gens s'en rendent pas trop compte, mais ce sont des chiffres vrais, d'ailleurs, que le fisc a validé avec 11 contrôles fiscaux. Le clan des divorcés, c'est plus +1,5 million d'entrées en France.
Mais c'est incroyable pour une pièce de théâtre.
C'est des chiffres d'un parc d'attractions, quoi.
C'est ça. Voilà. C'est ça.
Mais bon, c'est tant mieux. Tant mieux que ça tombe sur moi. Hein.
Exactement. Et donc après ce succès fabuleux, qui est toujours présent, bien sûr, eh ben t'enchaînes les pièces, t'enchaînes les écritures et puis les succès.
Bon, écoute, j'ai eu cette chance. Alors j'ai un petit secret que je vais te dévoiler, qui n'est pas un grand secret. C'est que contrairement à beaucoup de mes amis, je ne démarre pas mes pièces à Paris. Parce qu'une pièce, quelle que soit l'œuvre, elle met toujours une trentaine de séances avant de trouver son rythme, son son, voilà, comme une chanson. Et moi, quand j'avais les moyens, j'ai investi dans un petit théâtre à Nice. Et je me cache à Nice chaque année, au mois de septembre et au mois d'octobre, je suis caché à Nice. Parce qu'à Nice, si tu fais un succès, personne ne le sait. Et si tu fais un bide, personne ne le sait non plus. Et, et donc, je prépare. Alors, les gens, ils disent oui, à Lille, il fait des succès. Parce que les deux, trois fois où il y avait des bides en vue, ben, ils sont restés à Nice. Ils n'ont pas.
Et voilà.
Ils sont pas. Voilà, je pense qu'il faut avoir l'humilité, ce qui n'existe plus trop, parce que maintenant, les artistes, ils sont sollicités de partout. Mais s'enfermer comme un pâtissier ou comme un cuistot dans un laboratoire pour travailler, je pense que c'est une des clés du succès.
Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Et preuve en est aujourd'hui, puisqu'il y a quoi ? Il y a une quinzaine de pièces maintenant ?
Oui, je sors à la rentrée, 12e de moi, où j'ai joué moi, voilà. Plus celle que j'ai écrite pour les autres. Oui, je dois être à 15, oui, effectivement. C'est un chiffre assez juste.
Oui,
et je dis toujours, je n'ai pas la recette des succès, mais par contre, je fais tout pour éviter l'échec. Et je peux te dire que, contrairement à beaucoup de gens, j'écoute, c'est-à-dire que les gens qui me disent « Monsieur Vardar, vous êtes drôle et tout », ça me touche, bien sûr, ça me touche. Quand il y en a ça n'a pas plu, je ne le lâche plus. Parce que je veux savoir pourquoi, quelle est la phrase, parce que c'est lui qui te fait grandir. Parce que le mec qui dit « Monsieur, votre restaurant, il est très bon », c'est gentil, c'est touchant, mais il ne te fait pas évoluer. Celui c'est lui qui dit « Monsieur, la sauce n'était pas terrible, il y avait un peu trop de vin », tu vois, c'est ces gens-là. Et moi, je n'ai jamais cassé le lien entre le public et moi. C'est-à-dire que je fais partie de ces rares gars qui parlent énormément au public. Quand les gens m'écrivent sur les réseaux sociaux, je leur réponds personnellement. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est eux qui décident finalement de notre succès ou de notre fin de succès.
Tout à fait. Mais bien sûr. Oui, c'est le public qui... Oui, comme tu dis, c'est le public qui décide de toute façon. C'est lui qui va venir.
C'est exactement ça.
Et alors, des pièces, comme on l'a dit, donc environ une quinzaine, pas mal de succès, et des pièces qui se joue toujours, des compagnies reprennent tes pièces, toi tu les remets, enfin voilà, ce sont des textes qui vont...
Écoute, j'espère, en tout cas, tu sais, plus le temps passe, et plus je mets des très bons comédiens à ma place, et je mets le niveau a vraiment augmenté, et les gens maintenant, tu vois, par exemple, tout va bien se passer, qui est une pièce que j'ai jouée moi il y a 2 ans, elle a rejoué une année de plus, avec... à peu de choses près, autant de succès que si moi j'étais dedans. C'est-à-dire que je suis en train d'arriver à un truc qui est formidable, c'est à ce que les pièces puissent vivre sans moi. Et ça, c'est extraordinaire, parce que, tu sais, souvent, regarde, tu prends n'importe quel chanteur, regarde, alors, les Chevaliers du Fiel, demain, ils s'arrêtent, leur spectacle ne joue plus. Alors que moi... Je peux espérer peut-être que quand mes vieux jours viendront, je pourrai enfin me mettre à jouer au golf et avoir mes pièces qui tournent tout le temps. Donc, c'est vrai que ce côté-là, je suis très content que ça prenne ça. Ça prend vraiment, regarde, cet hiver, par exemple, à Paris, il y aura 4 pièces par jour de moi à Paris, dont une seule dans laquelle je joue.
Formidable.
Donc, tu vois, c'est une partie du succès qui m'intéresse beaucoup parce qu'elle me permettra peut-être de pouvoir me poser tranquillement.
Oui, puis après, ça te donne aussi une autre vision de tes pièces. Toi, tu les as jouées, les voir jouées par quelqu'un d'autre, ça apporte autre chose,
ça donne une seconde vie. C'est exactement comme un appartement. Hein. T'es habité, je ne sais pas si tu as déjà fait ça, de retourner dans un appartement dans lequel tu as vécu toi longtemps. Tu arrives et puis tu vois que le mec, il n'a pas mis le canapé comme toi. Tu vois que le mec, il a mis du bleu là où toi, tu as mis du rose ou le contraire. Mais l'appartement elle-même, mais le détail n'est pas le même. Et finalement, moi, quand je vais voir les gars jouer, tu vois, là, tu viens d'engager un mec qui s'appelle Michel Guidoni, que peut-être les auditeurs connaissent. Mm-hmm. Tu veux, Michel Guidoni, c'est un gars qui a fait les trucs de chansonnier, le théâtre des deux ânes pendant des décennies, et il est sur Paris Première avec des spectacles de... sur la politique, la revue de presse, voilà, bravo, le nom m'échappait. Et tu vois, je l'ai vu dans mon rôle, dans Star d'un soir, il a repris mon rôle. Écoute, je vais te dire un truc, je l'ai trouvé plus drôle que moi.
Comme quoi ?
Je me suis dit, si j'étais un spectateur, j'aurais préféré voir la version Guidoni que la version Vardar. Et c'est Eric Collado qui m'avait fait le même coup dans Le Clan des divorcés, je te parle, il y a 15 ans. Ouais. J'avais le festival de Clan divorcé était programmé au festival de Cannes Performance d'acteurs. C'est un festival qui avait un grand rayonnement national et il m'avait consacré 48 heures. Il y avait 48 heures autour de moi. Je faisais 10 ans de mariage et Le Clan des divorcés. Mmh. Et Et Éric Collado, à l'époque, jouait ma pièce. Et Éric Collado, il est de Saint-Laurent-du-Var.
Oui.
Donc, je me suis dit, je vais lui faire ce cadeau. Et j'avais dit au public, écoutez, messieurs, dames, c'est pas moi qui vais jouer le cadeau. C'est mon ami Éric Collado. Et parce qu'il est plus drôle que moi. Écoute, il a fait une standing ovation. Il y avait 900 personnes debout qui hurlaient. Et ça, c'est encore un autre kiff. C'est quand tu arrives à trouver quelqu'un qui te remplace et que tu trouves meilleur que toi.
Oui,
et puis là, c'est le zénith.
Ça sublime ton travail aussi quelque part, ton travail d'auteur.
Ah oui, et tu te dis, et surtout, c'est, tu te dis, oui, et puis tu assistes à ça. C'est vraiment une... C'est très touchant, franchement, parce que finalement, tous ces personnages, ils sont dans ma tête, ils existent, ils ont une vie.
Oui.
Et tu vois ce personnage dans le corps d'un autre, avec une justesse parfaite. Parce que tu sais, souvent, les gens, ils réduisent ton succès, ils disent « Ah oh, oui, mais c'est un bon titre ». Tu sais, très peu de gens, à part les spectateurs, mais dans notre métier, très peu de gens sont heureux du succès des autres.
Hein. Oh.
Le succès des autres, c'est une plaie ouverte pour les ratés, hein. Et du coup, ils disent « Oh oui, mais Vardar, ça marche parce que c'est un titre facile. » Ils te trouvent toujours des raisons. Alors, s'ils connaissent les raisons, pourquoi eux ne marchent pas? C'est ça la question qu'il faut se poser.
Exactement.
Puisqu'ils connaissent toutes les raisons de mon succès, mais eux n'arrivent pas à les reproduire. Tu vois. Donc, moi, je fais gaffe, tu vois, je suis très dans le détail. Chaque personnage, à ce qu'il dit, comment il est habillé, ce qu'il raconte, ça me démarche. Et quand tu vois des gens comme ça qui ont compris ça et qui jouent, et qui sont de vrais acteurs de haut niveau et que ça enflamme la salle, bah, tu te dis, mes pièces, elles vont peut-être que je serai enterré depuis des décennies, que mes pièces vont encore rire la France. Hein.
Mais oui. Je dis, ce sont des textes qui vont rester de toute façon.
Bah, je me le souhaite, franchement, et je le souhaite à mes enfants aussi.
Oui. Mais puis, oui. Et puis, on te le souhaite, bien entendu. Alors, là, on va enchaîner sur le. Donc, tu m'as dit, cet hiver, quatre pièces à l'affiche, quatre écritures. La nouvelle, alors?
La nouvelle, c'est une pièce qui me tient très fort à cœur parce que, tu sais, ça fait très longtemps, j'ai joué beaucoup de pièces dites de boulevard, où on est 4-5.
Oui.
Et là, j'avais envie d'un peu alléger les choses et j'ai rencontré Rebecca Hampton,
d'accord,
que les auditeurs connaissent par Sous le soleil à l'époque.
La télévision, oui, tout à fait.
Oui, et j'oublie toujours Plus belle la vie, voilà, j'oublie les noms. Mm. Et Rebecca, ça a été vraiment une rencontre parce que je voulais trouver une femme qui joue ma femme sur scène.
Mm-hmm.
Et je voulais pas jouer avec ma femme parce que les gens commencent à identifier ma femme.
Oui.
Et je ne voulais pas qu'il y ait de premier degré. C'est-à-dire que je veux toujours que les gens comprennent que ce que je joue, c'est un personnage.
Oui.
Et parce qu'attention, et ce n'est pas un scoop, la France intellectuellement n'est pas en marche avant.
Non, ça
c'est-à-dire
c'est...
que. Voilà. On a un problème, c'est que maintenant, quoi que tu dises, les gens pensent que c'est Ali Vardar qui le pense.
Eh oui.
Et tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple. Tu sais, moi, je pense que j'étais baigné. Tu sais, moi, j'ai grandi en Belgique. En Belgique, il n'y avait pas d'homosexuels, il n'y avait pas de juifs, il n'y avait pas d'arabes, il n'y avait pas de noirs. Il n'y avait que des Belges.
Mmh.
Et on s'aimait entre nous. Moi, j'ai un copain qui est devenu une femme à 16 ans. On l'a aimé dans le quartier d'immigrés, hein. On l'a aimé. Je n'ai pas connu la haine, la violence de l'autre. J'ai découvert en France, en arrivant en France. Tu vois. J'ai découvert le racisme, l'homophobie, tous ces mots-là, je les ai découverts en France. Je savais pas moi qu'on pouvait dire ça le PD à un garçon parce qu'il était homosexuel. Ces mots-là, je les ai découverts avec la France et avec Paris.
Donc
jamais de ma vie, moi, j'ai été habité par ça. Et un jour, sur scène, l'année dernière, je joue... Tu vois ce que c'est un dab que faisait Usain Bolt, là quand
oui,
il,
oui.
Le dab, c'est un mouvement de bras. Et en fait, la nana à côté de moi, elle dit une réplique complètement con. Et moi, je faisais un dab pour ironiser sur la connerie de la nana, tu vois.
Mm-hmm.
Et il y a un mec qui m'envoie une lettre de 3 pages.
Oh.
Où il me dit « Enfin, monsieur Vardar, vous enlevez votre masque et on voit enfin l'antisémite que vous êtes.
Oh, mon Dieu.
Vous avez fait une quenelle. » En fait, le mec, il a vu une quenelle de Dieudo quand moi je fais un dab.
Oh là là.
Et en fait, donc si tu veux, aujourd'hui, quand tu joues devant des gens en direct, tu ne dois pas exclure l'idée qu'il y a peut-être un con dans le groupe.
Eh oui.
Et voire même 2-3. Donc, je fais très très gaffe et j'ai pas voulu jouer ce spectacle avec ma femme qui a tout à fait le même profil que Rebecca. Ma femme, c'est une blonde, mignonne, c'est tout à fait le même type d'âge et tout. Parce que je me suis dit, il y a des cons qui diront, oh, ouais, Varda, il sa femme, et il lui parle pas bien. Alors que ça n'a rien à voir, ce sont des scènes de vie.
Exactement.
Et donc, quand j'ai rencontré Rebecca, je me suis dit, ça pourrait être ma femme. C'est tout à fait le genre de femme qui pourrait être ma femme. D'ailleurs, on s'adore dans le privé. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est tout à fait le profil. Donc, je me suis dit, ça pourrait être ma femme, mais c'est pas ma femme. Et en plus, c'est une formidable actrice. Vraiment, très peu de gens l'ont vue au théâtre parce qu'elle a été beaucoup plus présente en télévision.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui.
C'est très rare parce que Rebecca est aussi bonne au théâtre. C'est très difficile qu'à la télévision. Elle a une vraie voix, elle a un vrai charisme, elle a le sens du rythme. Ce sont toutes des choses très importantes. Et donc, je me suis dit, ah, ça peut faire un chouette duo. Et après, il fallait trouver un thème. Et j'ai trouvé les sept péchés capitaux.
Ah ah.
Et donc, je me suis dit, je vais faire sept couples différents. C'est jamais deux fois le même couple.
D'accord.
C'est sept couples différents qui s'engueulent autour de sept péchés capitaux. Et j'ai appelé ça sept scènes de ménage.
Mm-hmm.
Et donc, les gens pourront se reconnaître dans chacun des péchés capitaux, puisque chacun d'entre nous en a plusieurs.
Bien sûr.
Voilà. Et donc, on est dans les prémices, l'écriture est terminée, j'ai rendez-vous à partir de la semaine prochaine avec Rebecca toutes les semaines, on bosse pour les répétitions, et on démarre les premières à Nice.
À Nice, toujours. Début octobre.
Toujours à Nice. Début octobre, et on arrive assez vite à Paris, puisque dès le 31 octobre, je suis à Paris.
D'accord. Donc ça, c'est la nouveauté de la rentrée, 31 octobre, et on va te retrouver à la Grande Comédie, je suppose ?
Toujours à la Grande Comédie, j'en bouge pas. Hein.
Bien sûr.
Je suis bien, je suis chez moi, j'ai mes repères, le public me connaît là. Et non, je suis là, et puis après j'espère que le succès sera au rendez-vous et que ça va cartonner. Mais ça, c'est le public qui décide. Mais en tous les cas, franchement, j'ai relu le texte il n'y a pas longtemps là. Et franchement, on se marre bien.
Bah déjà, si toi tu te marres, tu vas faire forcément rire le public. c'est évident.
J'espère. Écoute, je vous le souhaite parce que tu sais, moi, chacune de mes pièces, moi, je ne fais pas partie de ces mecs qui sont très sûrs d'eux. Hein. Les gens pensent que ce n'est pas du tout le cas. Hein. Moi, j'ai des doutes. Hein.
Et heureusement.
J'ai des crises d'angoisse, j'ai des doutes. Et donc, voilà, c'est un nouveau bébé qui naît et j'espère qu'il va se lever et qu'il va marcher. Quoi.
Mais c'est tout ce qu'on te souhaite, bien sûr.
Ouais, merci.
Et donc, les trois autres pièces qui seront à l'affiche cet hiver, ce sera.
Alors, il y a toujours Tout va bien se passer, qui continue, une année de plus encore.
Oui.
Ça fait un carton. Il faut dire que j'ai Riyad Bax et Arsène Mosca qui sont dans Scène de ménage sur M6 tous les soirs, qui sont dedans. Ça amène beaucoup ça.
Ça aussi.
J'ai l'autre pièce avec Franck Leboeuf, Ernie Fiscal.
Oui.
Franck, qui jouit d'une popularité incroyable, champion du monde de football, mais surtout un des plus gentils garçons que j'ai pu croiser dans ma carrière, humble. Le mec, il arrive à l'heure, il connaît son texte avant tout le monde.
Oui, et très bon sur scène.
Si on pouvait avoir que des Franck Leboeuf, et puis je ne sais pas si tu l'as vu en slip dans mon spectacle sur scène, mais je peux te dire que les nanas, elles s'y sont.
En plus, voilà.
Et après, le troisième spectacle, c'est Star d'un soir, qui était ma pièce de l'année dernière, qui est reprise par Michel Guidoni.
Très bien, d'accord. Et donc, on retrouve Star d'un soir dans quel théâtre ?
Alors, Star d'un soir et Herbie Fiscal sont à la Comédie Saint-Martin.
Oui.
Et donc, Tout va bien se passer et cette scène de ménage à la Grande Comédie.
À la Grande Comédie. Très bien. Donc, des lieux qu'on connaît où on te retrouve très régulièrement. Une dernière petite chose. Le Clan des divorcés avait donné à la suite une adaptation en série télé, une petite série. Est-ce que tu en aurais l'envie ou l'idée de faire la même chose avec une autre pièce ?
Je ne sais pas, parce que je vais te dire un truc assez personnel. C'est une expérience un peu douloureuse avec les équipes de Canal+, à l'époque, où on avait fait la série du Clan des divorcés. Et tu sais, je vais te dire un truc un peu personnel, mais les gens l'interpréteront comme ils veulent, tu vois. J'avais l'impression à Canal+, les mecs, ils ont une maîtresse comme ça, c'est pas leur préférée, mais ils vont coucher avec elle de temps en temps, ils n'arrivent pas à la quitter, tu sais pas pourquoi, tu vois.
Ouais.
Et j'avais l'impression que Canal+ me réservait ce sort-là.
D'accord.
C'est-à-dire qu'ils m'ont fait faire cette série, qui était franchement un chouette truc. qui a été d'ailleurs adapté en Tunisie.
Oui.
Et puis, du jour au lendemain, t'as plus rien. Pas un coup de fil, pas un texto, c'est pas renouvelé, on te dit pas pourquoi, on t'explique rien, tu vois, tu n'existes pas.
Oui.
Et j'ai jamais très bien compris, et je pense que derrière ces mots-là, il y a des hommes, et je pense que mon expérience, tu sais, au théâtre, je dirige tout. C'est moi, c'est mon théâtre, c'est mon texte, c'est ma mise en scène.
Voilà.
Tu vois. Et quand je suis à la télévision, je dépends d'hommes. Mmh. Et je pense que il y a des choses occultes, obscures comme ça qui me dépasseront toujours. Alors aujourd'hui, mes spectacles sont à Comédie Plus en exclusivité. Ils ont été à France 4, ils ont été à C8, ils ont été à Paris Première. Aujourd'hui, j'ai un contrat avec Comédie Plus parce que les deux directrices de Comédie Plus m'aiment. Et quand je dis qu'elles m'aiment, c'est qu'on s'aime vraiment. Il y a une vraie affection entre nous.
Mmh.
Les autres, peut-être moins, et aujourd'hui, faire une autre série et aller devoir convaincre des gens de t'aimer, je ne suis pas arrivé à le faire à 35 ans, à 54, tu vois. Je pense qu'un artiste, il ne doit pas demander de te l'aimer. De l'aimer.
Oui, 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 oui.
Ou tu l'aimes, mais quand tu en arrives à frapper à la porte en disant « venez m'aimer au théâtre », je déteste ça. Et
oui.
Puis, je sais pas, tu sais, il y a aussi un truc, c'est que je suis un peu la négation du pouvoir des médias. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon public sans devoir aller à la télé, jeter des verres d'eau et montrer mon cul et faire des mauvais jeux de mots, tu vois.
Eh oui,
donc,
eh
si
oui.
Tu veux, moi, quand t'as un spectacle, moi, c'est mes pièces entières qui sont diffusées à la télévision, c'est pas un extrait.
Tout
donc,
à fait.
je pense aussi que je suis un peu la négation du pouvoir des médias et quelque part, je le paye toujours un peu, ça. C'est-à-dire, j'ai pas fait, j'ai peut-être léché moins de cul que les autres.
Oui, oui. Puis t'es pas le bon client pour eux.
Voilà. Et je pense que les médias, ils aiment bien le mec qui met un genou à terre et qui te supplie d'être à l'écran.
Bien sûr.
Tu vois. Et ce n'est pas dans mon ADN. Et voilà. Donc c'est vrai, je dis quand tu me dis faire des séries, oui, mais il faut un média, il faut des partenaires.
Bien
sûr. Par exemple, et pardon de te dire ça aussi gauloisement, mais il faut être complètement con aujourd'hui en France si t'es producteur de cinéma. Pour ne pas sauter dans un jet, aller devant la maison d'Alil en Suisse et signer l'adaptation au cinéma.
Oui.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mec qui fait le clin des divorcés au cinéma, s'il est nul, si c'est le plus mauvais producteur de France, il va faire 1 million d'entrées.
Mm.
Si c'est un bon producteur, il va en faire 5 millions. Et pourquoi ce film ne se fait pas? C'est bizarre quand même, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis, je reste toujours dans les endroits où je maîtrise tout ce.
Oui, comme
et
ça.
Voilà, la télévision, les médias, le cinéma, tout ça, je pense que, tu vois, par exemple, tu sais que tu as des comités de lecture quand tu veux faire un film. Par
oui.
exemple, t'envoies ton film à Pathé, il y a un comité de lecture avec des gens qui n'y connaissent rien, mais qui lisent. D'accord? Et ces gens-là décident de ta vie et 90% des films qu'ils produisent font moins de 30 000 entrées. C'est-à-dire que, avec tout le respect que je lui porte, c'est comme si tu ouvrais un stand de tir à l'arc dirigé par Gilbert Montagnier.
Ah oui, 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 oui.
Et Gilbert, au moins, il sent très juste.
Oui.
Si tu veux, aujourd'hui, les médias, le cinéma, sont dirigés par des gens qui ont fait des études, mais qui n'ont pas de talent d'artiste. Et moi, le cinéma qui nous est bandé, qui me donnait envie, c'était à l'époque où c'était des artistes qui faisaient les films.
Tout à fait.
Mais tu oui. vois, et c'est... Donc aujourd'hui, tu vois, il y a des jours, je me dis, je vois des pièces qui sont montées en film. Elles sortent en janvier, elles sont déjà, au mois, en décembre, elles sont déjà en film. Je me dis, putain, il n'y a pas un con qui m'appellerait, moi? Ben non.
Non.
Tu vois? Et finalement, est-ce que c'est grave?
Ben, c'est
pas.
Ce que j'allais dire. Est-ce que finalement, oui?
Avec... Tu sais, moi, il y a une seule personne qui s'est jamais trompée avec moi, c'est le public.
Exactement.
Moi, je suis dans le public avec moi.
Oui.
Et donc, finalement, tu sais, effectivement, je suis pas dans les soirées guindées de l'hôtel Coste avec toute l'équipe. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, tu vois. Et puis surtout, mon fauteuil est bien plus durable Je pense que, tu vois,
complètement.
Moi j'ai cet avantage-là, tu sais, j'ai deux copains, c'est pas un mystère, hein, que je t'ai cité là tout à l'heure, oui. Arsène Mosca et Riyad Bax, qui viennent d'être virés de scène de ménage.
Mmh.
Donc, le mec, il l'apprend par la presse.
Oui, ça
c'est-à-dire
fabuleux.
C'est-à-dire tout ramassin, les gens. Tu comprends, moi, je fais partie de ces anciens mecs élevés. Moi, mon rêve, c'était d'être Belmondo, d'être Gabin, tu vois. Et moi, le mec qui va virer à l'île Vardar par un communiqué AFP, il n'est pas encore né, tu vois.
Exactement.
Et donc, je préfère que le public me dise, voilà, Lille, fais-nous encore des œuvres. Ils viennent par centaines de milliers. Franchement, c'est pas des chiffres de Marseillais. Hein.
Ah non,
Tout le monde le sait.
Oui, oui, oui.
C'est des centaines de milliers d'entrées par an. Les gens viennent, je les aime, ils m'aiment. Et Comédie Plus, grâce à Marie Bonnard et à Isabelle Sanson, elle me couvre et elle diffuse mes spectacles. Mais on est tous en droit de se dire, putain, mais pourquoi il n'y a pas une pièce de Vardar à TF1 hein? Pourquoi il n'y a pas une pièce de Vardar à M6? Pourquoi il n'y a pas un film? Ça restera une énigme. Voilà.
Oui, mais finalement, ça ne nous empêche pas d'aller.
Non, et puis surtout, moi, ça ne m'empêche pas de vivre. Moi, je te dis tout de suite, je t'en parle parce qu'on est un peu dans la confidence. Une interview qui est un peu longue. Donc, quand c'est un peu long, on a toujours une tendance à s'étaler sur des trucs. Mais je vais parfaitement bien et mieux que bien. Donc,
voilà.
On parle juste de ça parce que c'est vrai que. C'est une question qu'on me pose à peu près 400 fois par an. Oui, monsieur Vardar, quand est-ce qu'on vous voit au cinéma? Écoutez, les gars, quand le cinéma l'aura décidé. Hein.
Exactement. Tu t'attends pas après eux, donc pour l'instant.
Non. Et puis surtout, tu sais, les 2-3 fois où j'ai été approché, ils t'envoient un petit mec comme ça qui va co-écrire avec toi, qui n'a jamais fait une vanne de sa vie, qui est drôle comme un panneau de signalisation. Et lui, il commence à réécrire ton texte et t'expliquer ce qu'il faut faire au cinéma. C'est le même qui a conseillé le film, qui a fait 4200 entrées avant toi, tu vois.
Oui, oui, oui.
Donc, c'est pour ça que je ne laisserai personne conduire à ma place.
Et tu as bien raison, et nous, ça nous convient très bien comme ça.
Tant bien.
Tu gardes ta liberté, et c'est ce qu'il y a de meilleur.
Exactement. Voilà.
Eh bien, écoute, je vais te remercier à Lille d'avoir passé ce petit moment avec nous, de nous avoir...
Écoute, moi, je suis ravi. Je te remercie parce qu'on a pris le temps. Et puis moi, tu l'as vu, je réponds toujours démarches de tout le monde.
Toujours, bien sûr.
Et voilà. Et je sais que c'est le public qui nous fait et qui nous défait. Et je suis ravi. Et puis c'est agréable de pouvoir parler un peu plus longtemps que les fameuses 4 minutes auxquelles on a toujours droit en interview.
Et oui.
C'est un vrai plaisir en tout cas.
Et ben merci.
Et on se voit bientôt à Paris, au théâtre.
C'est okay. Ça. Et donc, on te retrouve pour Paris à partir du 31 octobre à la Grande Comédie avec ta nouvelle pièce, donc les 7 scènes de ménage.
Exactement, parfait.
Eh bien, on va te souhaiter une jolie rentrée. Et puis,
cet
hiver.
Tous.
Merci
les
beaucoup.
Les auditeurs, les auditrices, je vous embrasse tous et à très vite.
Ciao. Merci beaucoup, Ali, et bonne fin de soirée.
Merci.
Au bout du téléphone, il y a votre voix et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire, qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux, je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître. Préparez votre temps, pour vous j'ai tout le mien. Je voudrais arriver. Je reste, je me déteste. Je n'arriverai pas. Je veux, je ne peux pas. Je devrais vous parler. Je devrais arriver. Où je devrais dormir. J'ai peur que tu sois sourd, j'ai peur que tu sois lâche. J'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas vous dire que je t'aime, peut-être. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Écoute. Cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver.
crois un jour que tu m'aimes. Et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne le considère pas comme un problème et cours et cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine, car tu ne sais pas où la vie t'amène. Viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi.
Auteure, compositrice, interprète et actrice française, Françoise Hardy nous a quittés en juin dernier, à l'âge de 80 ans. Son répertoire, basé sur des mélodies mélancoliques qu'elle affectionne, est en grande partie le reflet des doutes, des interrogations et de l'anxiété que suscitent en elle les tourments des relations sentimentales et de la nostalgie en général. Elle chantera en français, en anglais, en allemand et en italien. Complexée et sentimentale, la jeune Françoise se réfugie dans la lecture et l'écoute de chansons diffusées à la radio. Ses premiers souvenirs musicaux vont de Georges Guettari, son chanteur préféré car elle le trouve très beau, à Tino Rossi, Luis Mariano, puis Charles Trenet. Mais ce qui change sa vie est la découverte sur la station Radio Luxembourg du rock'n'roll et de la musique pop. Elle déclare à ce sujet « C'est venu au début des années 60 quand ma mère a acheté une radio » et en tournant le bouton, je suis tombé sur une station anglaise qui était Radio Luxembourg anglais, et cela a été déterminant dans mon existence, car c'est là où j'ai découvert une musique qui me touchait, au-delà de tout et d'un seul coup. Il n'y a eu que cela qui a compté pour moi. Elle appréciait alors particulièrement The Everly Brothers, Elvis Presley ou Cliff Richards. À cette époque, elle aime acheter ses disques dans une boutique rue Chaussée-d'Antin en face des Galeries Lafayette. Et lorsque cette boutique, paraissant branchée, ne dispose pas de ce qu'elle souhaite, ce qui arrive assez souvent, elle ressort avec une sorte de fierté, se disant qu'elle connaissait des choses géniales et que ses disquaires ne connaissaient rien. À 16 ans, comme récompense de sa réussite à son premier bac en juin 1960, elle demande une guitare. « J'avais demandé une guitare quand j'ai été reçue à mon premier bac. On m'a demandé ce que je voulais comme récompense, alors j'ai demandé une guitare. Et puis une fois que j'ai eu mon deuxième bac, alors je me suis occupé de la guitare que j'avais délaissée pendant un an. Enfin, dont je ne m'étais pas occupé du tout pendant un an, et puis j'ai fait quelques chansons. » Aidée d'une méthode d'apprentissage sommaire, elle s'essaye à poser quelques accords de guitare sur des mots qui traduisent ses états d'âme et se met à rêver d'un métier et un rapport de près ou de loin avec le milieu musical. Les cours suivis au Petit Conservatoire de la Chanson font alors l'objet d'une émission télévisée hebdomadaire intitulée « En entendant leur carrosse » et diffusée sur l'unique chaîne en noir et blanc de la RTF. Mademoiselle Hardy y fait alors sa première apparition le 6 février 1962 avec une chanson « La fille avec toi ». Été 1962, Françoise Hardy rencontre Jean-Marie Perrier, photographe du magazine Paris Match, puis de Salut les copains, Place du Tertre, etc., etc. À la demande de l'éditeur Daniel Filippici, qui ne fut guère très enthousiaste, car Françoise s'avérait peu conciliante et Jean-Marie mal inspiré. Néanmoins, lors du tirage des photographies, Jean-Marie Perrier la trouve particulièrement photogénique et demande une deuxième séance photo à Jean-Jacques Giffry, chargé des relations publiques pour Vogue. Cette rencontre aura lieu chez elle, en présence de sa mère, dans le modeste appartement de la rue d'Aumale.
Jean-Marie Perrier découvre alors toute l'étendue sociale qui les sépare, ce qui l'émeut profondément en voyant Françoise Hardy chez elle devant son étagère de bureau, qui représente alors toute sa vie, alors que lui vit dans un hôtel particulier où le monde entier défile. Par la suite, Jean-Jacques Grief informe Françoise Hardy qu'elle ne laisse pas indifférent Jean-Marie Perrier. Puis ensuite, elle découvre ses origines. Élevé par François Perrier, il est toutefois le fils biologique d'Henri Salvador. Et cette situation modifie le regard de Françoise sur son compagnon, car elle devine alors la complexité des rapports qu'il entretient avec ses parents. Rapports qui feront écho chez elle avec la relation qu'elle a avec les siens. L'étendue des connaissances de Jean-Marie par rapport à elle l'attire encore davantage.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux.
Fin 1963, le 45 tours en tête des ventes durant 11 semaines atteint le million de disques vendus. Et c'est cette chanson, Tous les garçons et les filles, qui franchit alors les frontières. Sa popularité atteint l'Espagne, les Pays-Bas, le Danemark, le Canada, le Japon, les États-Unis ou même le magazine de mode Vogue publie un reportage de 14 pages illustré de photographies réalisées alors par William Klein. Puis vont s'enchaîner les succès. En 1967, elle crée Aspargus, sa propre maison de production, et signe un nouveau contrat avec Vogue pour la distribuer. En mars, elle chante à nouveau pendant 3 semaines au Cabaret du Savoie. En septembre 1967, lors d'un séjour dans la nouvelle maison corse de la chanteuse, en compagnie de Jacques Dutronc et de sa bande de copains, le couple Dutronc-Hardy se forme. Mais elle se rend compte rapidement que leurs longues séparations lui sont éprouvantes, d'autant plus qu'il a de nombreuses conquêtes et aventures féminines. Françoise Hardy partage la vie du chanteur et acteur de cinéma Jacques Dutronc de 1967 jusqu'aux années 90. Ils auront un fils, Thomas Dutronc, lui aussi chanteur, né en 1973. Ils se marieront le 30 mars 81 à Monticello, en Haute-Corse. Mais depuis leur séparation en 1991, le couple n'a pas coupé les ponts et reste marié.
Elle vit à Paris et lui a refait sa vie avec une ancienne maquilleuse rencontrée lors d'un tournage. Il réside, lui, dans la maison familiale sur les hauteurs de Monticello. En 1970, Françoise Hardy s'associe avec la société Sonopresse pour assurer la distribution de ses futures productions sur le territoire français. Ce nouveau départ en tant que productrice, à part entière, est inauguré par une compilation sobrement intitulée Françoise, puis par l'album Soleil, en 1971. Paraît alors l'album La Question, et en 1972, Et si je m'en vais avant toi ? Par ailleurs, l'intérêt qu'elle porte à l'astrologie s'ébruite, au point qu'elle reçoit des propositions qu'elle trouve un peu prématurées, mais qu'elle finit par accepter pour se perfectionner auprès d'astrologues confirmés. Et c'est en 1974 que l'astrologue Jean-Pierre Nicolas lui demande de travailler avec lui pour une revue spécialisée. Elle tracera ainsi son chemin en experte, et ce qui amènera Michel Bassi, alors directeur de Radio Monte Carlo, à lui confier en 1980 une émission hebdomadaire sur l'astrologie qu'elle animera alors avec son mentor Jean-Pierre Nicolas. En 1988, au bout de 26 ans de carrière, Françoise Hardy arrête la chanson en déclarant que Décalage sera son dernier album. Elle en a écrit tous les textes et porté par le titre Partir quand même sur une musique de son mari Jacques Dutronc. Cet album devient alors disque d'or en quelques semaines. Tenant tout de même à garder un contact avec le milieu de la chanson, elle continue d'écrire pour Julien Clerc, Patrick Juvet, Victor Laszlo, Jean-Pierre Madère, Gesh Paty, et puis elle crée des nouvelles versions pour une compilation de ses propres chansons. Stimulée par le directeur artistique Fabrice Nataf et le chanteur Étienne Dao, en 1996 sort alors un album de retour, Le Danger. Ce qui les remettra le pied à l'étrier vers la chanson, les scènes et les studios. En 2007, poussée par les éditions Robert Laffont, Françoise Hardy s'attelle à la rédaction de ses mémoires. Le livre paraîtra en octobre 2008 sous le titre « Désespoir des singes et autres bagatelles ». Certains aspects de sa vie professionnelle et privée sont ainsi révélés, comme l'euthanasie de sa mère ou son coup de foudre pour un artiste particulièrement brillant et ambigu. Ce qui transforme alors sa relation physique avec Dutronc en rapport fraternel. Le 25 juin 2019, Françoise Hardy accorde un entretien à RTL, dans lequel elle annonce être atteinte d'un nouveau cancer, dont le traitement l'a malheureusement rendue sourde d'une oreille. Elle indique ainsi qu'il lui sera désormais impossible de chanter, et ce qui présage la fin de sa carrière musicale. Atteinte d'un cancer du larynx, elle demande le droit à l'euthanasie en France et reproche en avril 2021 au président de la République l'enlisement du débat sur ce sujet au sein de l'Assemblée nationale. Elle avait déclaré fin mars 2021 « Je suis dans un état de souffrance vraiment cauchemardesque la plupart du temps ». Dans cette épreuve, elle évoque sa mère, Madeleine Hardy, atteinte de la maladie de Charcot et raconte comment, en 1991, elle avait accompagné la fin de vie de sa mère. « Le médecin de ma mère m'avait dit, Madame Hardy, le jour où vous le déciderez, vous me le dites et vous pourrez compter sur moi. Il lui a envoyé le jour où elle l'a décidé un médecin hospitalier. Celui-ci devait élaborer avec moi une sorte de scénario pour le médecin légiste ne se doute de rien et fasse le nécessaire. Je ne me posais absolument pas la question d'outrepasser la loi, c'était la volonté de ma mère et c'était tellement compréhensible. » Le 17 juin 2021, elle se confie et se sentir proche de la fin. Le lendemain, Le Dauphiné Libéré rapporte par erreur le décès de la chanteuse, que son fils Thomas Dutronc dément immédiatement sur son compte Instagram et tous les réseaux sociaux. 14 décembre 2023, elle annonce dans un entretien sa volonté de partir le plus tôt et le plus vite possible et demande au président Emmanuel Macron de légaliser l'euthanasie, elle qui est atteinte d'un double cancer du pharynx et du système lymphatique. Le 11 juin 2024, Françoise Hardy nous quittera et meurt à l'âge de 80 ans, des suites de son cancer à l'hôpital américain de Neuilly. Sa mort est annoncée par son fils Dutronc le soir même sur les réseaux sociaux et sur les médias par ces simples mots « Maman est partie », accompagnée d'une photo de lui bébé et de sa mère qui le regarde. Les obsèques de Françoise Hardy auront lieu le 20 juin 2024 au cimetière du Père Lachaise, en présence de la famille ainsi que de très très nombreuses personnalités. Dans les médias, le mot « idole » était depuis longtemps tombé en désuétude. Celui d'icône l'avait remplacé. Eh bien, c'est ainsi qu'ils qualifieront désormais la chanteuse. Françoise Hardy devient alors une référence reconnue et une inspiratrice revendiquée, aussi bien en France qu'en Grande-Bretagne et au Québec. Merci Françoise, et bon voyage.
Eh bien voilà, on papote, et c'est déjà la fin pour ce soir. Je vous retrouve donc le dimanche 6 octobre avec un nouvel invité et des nouvelles découvertes. Et en attendant, n'oubliez jamais, croire en soi, c'est de réaliser ses rêves les plus fous afin de suivre son destin. Très belle fin de nuit sur Graffiti Urban Radio. Thank you.